Bonjour, bienvenue dans notre émission Underscore, larguez les amarres, nous partons dans une rétro-aventure comme on aime, à vos souris, prêts, cliquez.
Ah, t'es prêt? Bonjour Mamie-Man, bonjour Maître Belle, bonjour Ododou.
Bonjour Cécile.
Salut tout le monde.
Salut.
Et bonjour François, qui nous recevons aujourd'hui, car nous allons l'interviewer et le décortiquer en direct pour sa participation à un jeu vidéo dont il va nous en parler après l'actualité. Tu nous dis un petit bonjour, François ?
Bonjour à toute l'équipe et bonjour à tout le monde, à ceux qui écoutent.
Eh bien, on passe à l'actu alors ?
Eh ouais, qu'est-ce qu'on a à l'actu ?
Le Japon se débarrasse des disquettes. Il les utilisait encore pour les administrations.
Le projet Gutenberg, de nouveau accessible en Allemagne, un accord a été trouvé avec les ayants droit et les livres toujours couverts par le droit des trois auteurs concernés ne seront pas visibles depuis l'Allemagne jusqu'à leur expiration, mais le reste de cette bibliothèque y sera de nouveau accessible.
Le groupe Facebook change de nom pour Meta. Le réseau social sera toujours Facebook, honnêtement ça m'est absolument indifférent.
Facebook annonce renoncer à la reconnaissance faciale et indique qu'ils vont supprimer les données de reconnaissance du milliard de personnes concernées. On demande à voir, mais en fait, il s'agit uniquement du réseau social Facebook, pas de Meta, hein, pas de la compagnie dont on vient de vous dire que
c'est étrange, hein. C'est,
ça devient compliqué. Hein.
La lanceuse d'alerte France Hogan, auditionnée par l'Assemblée nationale. Les parlementaires français ont voulu entendre ce qu'elle avait déjà dit au sénateur américain au sujet de Facebook.
Des nouveautés pour Peertube, une appli Android pour faire un direct depuis son ordiphone et une extension pour ajouter un chat intégré lors des sessions live.
Première ligne FTTH fonctionnelle pour FDN. Elle est en test depuis septembre.
Le SFC obtient de nouvelles exemptions au DMCA. Le Software Freedom Conservancy a obtenu de la Library of Congress plusieurs nouvelles exemptions au DMCA, donc c'est le Digital Millennium Copyright Act, pour permettre de remplacer le firmware d'un routeur, ainsi que pour vérifier que des logiciels ne violent pas des licences libres. Ouf !
Un site web tout neuf pour Libre à vous. Les copains de l'émission Libre à vous de l'April sur Cause Commune ont un site web tout neuf, tout beau, proposant de nouvelles fonctionnalités.
Firefox disponible sur le Microsoft Store pour Windows 10 et 11. C'est le premier navigateur tiers à être disponible sur le magasin d'applications de Windows, avec son propre moteur, alors que jusqu'ici n'étaient autorisés que les navigateurs utilisant le moteur déjà disponible, tout comme c'est le cas sur le store Apple pour iOS.
Le DINOM annonce son plan d'action logiciel libre et commun numérique. Il vise à soutenir la transformation numérique de l'État.
Eh bien, c'est tout pour aujourd'hui, je crois.
Oui.
En tout cas, on vous retrouve tout de suite après avoir écouté un extrait musical du jeu vidéo sur lequel François va être interrogé. Attention qu'il prépare son stylo pour sa copie. Anator 2, à tout de suite. On va pas zéro pointé, hein.
Thank you.
c'était l'une des nombreuses musiques qui ont été créées pour le jeu Atanor voilà. De sur Amiga. Oui, moi aussi.
Atator, c'est Atanor.
Oui, Atator, oui. Là, j'ai eu zéro pointé. En tout cas, c'est sûr que pour le coup, la musique était intéressante à écouter puisque c'est la version Amiga que nous avons écoutée et on vous profitera après, en fin d'émission, la version Atari avec un autre style musical et un autre musicien. Ici, c'était David Van Der Steen.
Ça donne l'ambiance du jeu en tout cas, c'est très sympa.
Tout à fait, mais en parlant du jeu, avant de venir au sujet avec François... Je vais vous parler un petit peu du jeu sur lequel on va le questionner. Donc, l'aventure continue. Après être venu au bout des mystères de l'abbaye dans Atanor 1, l'éveil, partez maintenant à la recherche de vos origines à travers le monde. Quatre lieux principaux à explorer, de nouveaux personnages à rencontrer et de nombreuses énigmes à résoudre. Atanor 2, la légende des hommes oiseaux, est le deuxième opus de cette passionnante trilogie. Donc François, que nous accueillons aujourd'hui dans notre émission Underscore, est développeur et graphiste et il va nous évoquer ici son expérience de développeur dans le cadre de la participation de ce portage de ce jeu vidéo qui était d'abord sur CPC et puis sur Amiga. Donc François, présente-nous un petit peu, que fais-tu dans la vie ?
En fait, je travaille dans une TPE dans la région centre et on fabrique tout ce qui touche à l'image 3D, que ce soit de la vidéo et même du soft, parce qu'en fait, on doit faire partie des derniers dingues à faire un moteur 3D et à essayer de le vendre, un moteur open source qu'on propose aux industriels. Donc, je travaille avec une petite équipe et on s'éclate bien.
D'accord. Et pour revenir un petit peu sur le côté rétro, parce que là aujourd'hui les auditeurs ne savent peut-être pas encore, mais le jeu est un jeu rétro, hein, c'est un jeu qui se joue sur des vieilles machines, les machines 16 bits hein, pour être précis, ou 8 bits pour certaines.
L'Amstrad.
Comme les Amstrad, oui. Et alors, quelle a été ta première machine que tu as touchée dans ton enfance ?
Ah, justement, c'était un Amstrad. Ma mère qui était assistante sociale. Claquer l'intégralité de sa prime d'une année pour m'acheter un CPC 6128 couleur.
Couleur, avec l'écran et tout.
Alors Medbel, tu as une question à poser à notre invité ? Ah, il joke. Ah là là, la blague venait. Et comment es-tu arrivé sur le projet de Atanor 2 finalement ? Puisque,
Franchement, je me rappelle plus. Je suis tombé sur le site d'Eric, Eric Safar, donc mm-hmm. le créateur de la trilogie Atanor. Mm-hmm. Et tout de suite, ça m'a super intéressé. Et donc, je crois que je n'ai pas traîné, je lui ai envoyé un mail. Et puis après, on a commencé à discuter au téléphone. Et puis, je me suis vraiment intéressé au projet. Et comme je venais de terminer une démo sur Amiga que j'avais codée, c'était la deuxième grosse démo Amiga que j'avais codée tout en C. Je me suis dit, tiens, ben, si ça se trouve, je suis capable de coder un jeu. Donc, comme il terminait la version CPC et qu'il me parlait de la version 1632, Atari Amiga, je lui ai dit, bah, écoute, sur l'Amiga, si tu veux, je peux t'aider. Donc, je pense qu'il lui a fallu un peu de temps, mais il a accepté. Donc, c'est comme ça que j'ai atterri sur le projet.
D'accord. Alors, il y a une chose particulière sur ce jeu vidéo que j'ai vu en découvrant un petit peu l'univers de Safar. C'est que le jeu a été d'abord sur Amstrad, c'est ça ? Ou sur Commodore ?
Alors en fait, le tout premier épisode, Atanor 1, il a été créé sur Auric. Sur Auric Atmos.
Auric, ouais.
Ah, je vois Mememan qui saute dans le studio, il est content.
C'est pour ça que je prends la peine d'apporter cette précision. Ensuite, il en a fait une version Amstrad, et il y a eu une version Commodore 64 qui a été faite, il y a eu une version VIC-20 qui existe, une version pirate. Ouais. Et ensuite, il en a eu un peu marre d'Atanor 1, donc il est passé au 2 et il a fait la première version d'Atanor 2 sur CPC. Puis là, on a travaillé depuis 2017, on travaille sur la version Atari Amiga qui est terminée. Là.
Ce qui fait quand même un projet qui est de long cours finalement, puisque les origines sont très loin. Quoi. Pour rappeler l'ambiance, on est sur du point and click, on est aussi sur du RPG, donc du role-playing game, hein, c'est ça ?
Je dirais point and click, la mécanique est suffisamment assez simple en fait. Il n'y a pas vraiment d'éléments de RPG, je crois pas. Ou peut-être que si. L'ambiance est là quand même. Il y a pas mal d'énigmes. Je pense qu'on est plus peut-être dans de la fiction interactive, des jeux comme SRAM, etc. Sauf qu'au lieu que ce soit sur CS32 avec de l'analyse syntaxique, c'est de la souris, comme tu l'as dit, point and click, etc.
Alors, il y a une particularité aussi par rapport à ce jeu que j'ai vu, parce que toi, tu as été axé sur la version Amiga, et il y a aussi une version Atari, et en fait, d'habitude, souvent les jeux passant d'une plateforme à l'autre, en fait, il y a un portage de code. Est-ce que ça a été le cas pour ce jeu ?
Ouais, justement, non. En fait, sur Amstrad, il était écrit, c'était un mélange de BASIC et d'assembleur. Sur Atari, Eric a voulu tout refaire, donc il a tout refait de zéro. Ouais. Le seul point commun, c'est l'histoire, les énigmes et puis les dessins d'origine en noir et blanc. Et donc en fait, on a refait sous Photoshop, j'ai repris tous les graphes. Enfin, j'en ai repris deux tiers sous Photoshop et un copain, Vincent, a fait le tiers manquant. Donc on a tout refait en HD, en 24 bits. Et Eric, a réécrit le jeu en GFA basique et assembleur. Exactement. Et comme moi, je voulais pas toucher au GFA basique, du coup, j'ai tout réécrit en C, en fait. La moitié du jeu Atari est écrit en GFA. Le jeu en lui-même, l'histoire est écrite dans un script propriétaire que en blaguant avec Eric, on appelle ça le SafarScript. Et du coup, j'ai fait un traducteur de SafarScript. Donc, j'ai écrit en Python un truc qui prend le SafarScript de la version Atari ST et qui la transforme en C. Que j'envoie au compilateur et du coup ça se transforme en binaire. Quoi.
Donc tu prends le script, tu génères le code qui après va être compilé derrière. Quoi.
C'est ça exactement.
C'est un côté magique. Et du coup sur Amiga, tu as développé avec d'autres outils pour le coup.
Ouais, Eric lui il travaille sur un vrai Atari. Il aime pas coder sur PC en fait.
Ouais, on en
moi,
connaît.
Moi c'est complètement le contraire. Moi c'est le contraire, je préfère tout avoir dans mon portable, donc ouais c'est VS Code, Git, un émulateur Amiga quand même il en faut un forcément,
mais ouais,
moi j'utilise des outils assez modernes.
Pour tester, mais effectivement du coup tu fais de la compilation croisée, tu compiles sur un PC.
Ouais, non, c'est le seul truc où... Ouais, je compile dans l'émulateur, donc c'est le seul truc où j'étais un peu fainéant, je compile quand même avec un vieux compilateur de l'époque, mais dans un émulateur.
Wood, est-ce que tu as des questions à poser à François ?
Ah ben forcément oui, petite question technique. Vu que du coup ta version est en C rapport à l'autre qui est en GFA, je suppose qu'elle doit tourner beaucoup plus vite. Enfin, si ça peut se ressentir sur un point and click.
On s'est posé la question et je suis pas sûr en fait, parce que mine de rien, le compilateur GFA, je crois qu'il est ultra efficace. Et de deux, j'ai tout écrit en C. Et par contre, pour tout ce qui est graphique, je suis passé par l'API Commodore, l'API de système. Donc tous les appels système graphiques, ils sont compatibles, comment on dit, OS friendly, compatibles OS, quoi, et multitâche. Donc le jeu Amiga, en fait, il tourne en multitâche, ce qui fait que finalement, le jeu est relativement lent.
D'accord, ok.
Mais on ne s'en rend pas compte parce que c'est un jeu d'aventure, en fait. Mais oui, en théorie, on aurait tendance à penser que la version Amiga pourrait mettre la fessée à la version Atari, mais c'est pas le cas. Je pense que ça se voit en termes de performance.
Ça sent la guéguerre. Hein.
On lit le sourire sur l'élève de Sicile. Atari, c'est la meilleure.
Non, mais faut le reconnaître, quoi. Hein,
c'est
non
différent, c'est pas fait de la même façon. Et du coup, est-ce qu'on pourrait réutiliser la version C pour Atari si on voulait, ou il y a vraiment beaucoup de code qui est spécifique à l'Amiga? Est-ce que c'est isolé?
Non, je l'ai isolé. J'ai même mis en open source mon espèce d'API, mon frappeur, mais qui est une véritable horreur, quoi. Il est dispo sur GitHub, mais c'est vraiment c'est horrible. Faut pas,
ouais,
pas
que,
le voir.
Par exemple, je vois d'autres plateformes où il y aurait peut-être des gens intéressés. Je sais pas, par exemple les vieux Mac 68K. Ou...
Ah oui.
Il y a encore une bonne communauté.
Alors ça, c'est un sujet brûlant, mais je crois qu'Eric est pas intéressé.
Ah ouais.
En fait, si vous regardez la chronologie du projet, il a commencé en 2014, on est en 2021. Je crois qu'Atanor, il a un peu envie de passer à autre chose.
Oui.
Et accessoirement, lui, en fait, il veut faire des jeux en physique. Le dématérialiser, ça ne l'intéresse pas. Mmh. Donc peut-être qu'à un moment donné, un jour, s'il y a des gens qui font des portages, ça lui posera pas de problème, mais je pense que pour l'instant, c'est pas trop un truc qui l'attire. Mais oui, c'était un peu l'idée qu'on avait quand même. Enfin, moi, c'est l'idée que j'avais en tête. Quand j'ai écrit le truc en C, je me suis dit, on sait jamais un jour si on veut faire un portage. Mais bon, pour l'instant, c'est pas trop d'actualité. Mais oui, techniquement, c'est relativement faisable.
Et faire un portage comme ça, ça prend beaucoup de temps. J'imagine que c'est une passion qui dévore tout en temps libre.
Oui, c'est un peu ça. J'avais regardé dans le GitLab et ça, le premier commit doit dater de 2018. C'était pour une convention organisée par la RGC. J'ai passé pas mal de week-ends et de vacances. Ma femme pourra en témoigner. mais c'est marrant parce qu'en fait, même pendant les vacances et tout, du coup, c'est l'intérêt d'avoir un portable. C'est qu'on peut bosser pendant les vacances. Donc j'ai bossé un peu au Danemark, un peu en Islande. Je me la pète avec mes super voyages. Mais non, c'est cool. En tout cas, c'était un projet très sympa.
Mais ça rapporte du coup ?
Absolument pas. C'est édité à compte d'auteur. Donc Eric en fait avance la trésor pour imprimer les boîtes, acheter des disquettes parce qu'il a acheté des disquettes neuves et ça coûte cher. Vous en avez parlé en tout début d'émission.
Il peut acheter au Japon, ils en utilisent plus là.
ouais, je lui en parlerai. Du coup, non, pour l'instant, il est à peu près à l'équilibre. Ça lui a pas coûté trop quoi.
Parce que effectivement, le rétro game est tendance, mais est-ce que justement, est-ce que c'est vraiment destiné qu'au nostalgique ou il y a une ouverture vers un public plus jeune ?
Je pense que sur certains projets, il y a une ouverture vers un public assez jeune. Il y a des projets assez récents qu'on voit sur Kickstarter qui sont écrits pour Mega Drive, par exemple. Mais en parallèle, il y a des versions qui sont proposées sur Switch. Donc là, on voit bien que pour peu que le gameplay soit relativement modernisé, ça peut parler à plusieurs générations. Dans le cas d'Atanor 2, je ne saurais pas dire. Je pense que c'est peut-être un peu obscur pour les jeunes joueurs, encore que j'ai un copain qui m'a dit que sa gamine de 10-12 ans était super intéressée, donc pourquoi pas.
Et si tu devais conseiller ce jeu, qu'est-ce que tu donnerais comme point fort, le truc en plus qui fait la différence par rapport aux autres jeux qu'on trouve habituellement dans ce domaine ?
Je dirais, c'est un peu prétentieux, mais qu'on a peut-être réussi à avoir un peu l'ambiance d'un jeu comme Myst, mais sur des machines comme l'Atari ST ou l'Amiga 500. Quoi. Ce côté un peu se balader dans des ambiances un peu vides, assez contemplatives. Je crois qu'on a réussi à faire un truc qui est pas mal à ce niveau-là.
Et j'ai vu aussi, à travers la boîte de jeu aussi, tu as des énigmes à résoudre et aussi des outils fournis avec le jeu et des disquettes.
Ouais, ça, je crois que c'est la nostalgie qu'a Eric pour les jeux, notamment de l'époque de Cobra Soft, tous les jeux d'enquête où, en fait, t'avais le jeu sur cassette ou disquette, mais t'avais en plus des indices physiques sans lesquels tu pouvais pas finir le jeu. Et là, pour Atanor 2, c'est le cas. Tu peux pas le terminer si t'as pas les indices.
Ruth, tu avais quelque chose à dire ?
Non, je me rappelle effectivement de ces boîtes de tous ces jeux avec un morceau de journal déchiré, avec des bouts de bois, des jetons. Et c'est vrai que c'était particulier d'ouvrir la boîte de ton jeu vidéo, où d'habitude il y a juste une notice d'utilisation ou éventuellement un poster. Et là, tu dis tiens, mais qu'est-ce que c'est ?
À quoi
servent ces objets ? Et puis quand tu avances dans le jeu, tu te rends compte, ah oui, tiens, en fait, il y a ça, etc. Donc c'est... voilà, on parlait du côté nostalgique et de l'édition physique. Ça, c'est ce que permet de proposer l'édition physique en plus. C'est pas juste avoir une boîte à ranger dans sa bibliothèque. Ça fait partie de l'expérience...
Tout à fait.
Du toucher en plus du
ouais, puis en plus, ça fait un DRM en plus.
Non, mais pour le coup, Oudoudou a parfaitement raison sur le sujet. Ça fait partie de l'expérience du jeu d'avoir la boîte avec les disquettes, les objets supplémentaires. Je crois même qu'il y avait des illustrations qui étaient remises et qui avaient servi de support au jeu, il me semble, sur certaines versions,
j'ai vu. Sur certains, il y a des cartes pour savoir où on en est dans le
monde. Oui, ou pour retrouver des codes aussi.
Ouais.
Pour bien prouver, oui, je suis le propriétaire du jeu.
Alors, dernièrement, il y a eu un jeu sur CPC, hein, je fais un petit hors-sujet, mais il y a eu un jeu sur CPC de pirates des mers, et dans la boîte du jeu, il y avait une petite bouteille de rhum. Alors, c'est complètement artisanal, alors, je pense qu'on n'a pas le droit de faire ça dans le commerce, mais,
ouais, je sais pas.
Mais ouais. Ils ont mis, il y a deux gouttes.
Ouais, c'est une fiole. Là,
c'est une fiole, mais avec un petit peu de rhum dedans, donc c'est voilà, un petit clin d'œil.
Et François, j'ai une question. Si tu devais choisir, est-ce que tu préfères la version Atari ou Amiga ?
Oh, le troll.
Non, mais je préfère la version Amiga. Ah. C'est un peu injuste. Je préfère la version Amiga. C'est d'abord parce que j'ai travaillé dessus, et puis j'ai vraiment essayé de faire en sorte qu'elle soit qu'il y ait le plus de finition possible. Le seul point, à mon avis, supérieur de la version Atari, les deux points supérieurs, c'est la musique. Je crois qu'il y a une bien meilleure variété de la musique sur Atari.
Il faut dire que DMA a encore bien travaillé. Hein.
Ouais, mais il n'y a pas.
Ouais, ça, exactement. Alors... Et puis les fichiers audio sont vachement plus petits, donc bon. Puis voilà, il était vraiment ultra productif. Et l'autre truc sur Atari qui marche mieux, c'est les textes sont plus lisibles parce que Eric a utilisé une fonte proportionnelle et moi pas. Ah. J'ai utilisé une fonte monospace et c'est vrai que c'est pas ultra lisible. Donc bon. Mais c'est vraiment du détail technique, sinon, franchement, les deux versions sont top à jouer.
Ah, ben GFA quand même. L'une que l'autre, quoi. GFA quand même.
Mais c'est.
Ouais, j'avais pensé à un moment.
C'est hyper puissant comme langage, en fait.
J'avais pensé à un moment, ça pourrait être intéressant de. Je sais qu'il y a, par exemple, LLVM qui est en cours de. Enfin, il y a eu un portage de LLVM pour 68000, donc il y a le support du 68000. Mmh. Ça pourrait être intéressant d'avoir un front-end de GFA pour compiler du GFA.
Mais je crois que ça existe plus ou moins. GFA, il existe encore, en fait. Il bouge encore.
Oui, même sur Amiga, il est le GFA.
Ouais, il y a une version 3 pour PC, je crois, ouais, effectivement.
Ouais, puis même assez récente. Mais la version Amiga du GFA, elle est complètement buggée. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai fait aussi le jeu en C, c'est que je faisais pas confiance à la version GFA de l'Amiga. Elle n'a pas été écrite par l'auteur du GFA, David Katari. Elle avait été sous-traitée. Et je crois que c'était une catastrophe.
Sous-traitée et maltraitée.
C'est dommage.
C'est ça.
C'était tellement prometteur.
Est-ce que Matt Bell a une question ?
Alors, c'est vrai que Matt Bell n'a pas beaucoup parlé pendant l'émission, mais je sais que quand il a écouté la musique de début, il a souvent pensé à... Attends, je vais reprendre ce qu'il a dit, parce qu'il ne veut pas parler. Hein. Il a trouvé que les musiques, les sonorités étaient pareilles que sur Shadow of the Beast, mais après, c'est parce que c'est une musique lente aussi, peut-être
Non, c'est vrai, il y a un morceau, il fait très Shadow of the Beast aussi, je trouve, ouais, celui de Rapa Nui. Effectivement, on a l'impression d'être dans un des morceaux de Shadow of the Beast 2, il me semble, enfin, si c'est à ça qu'il fait référence.
C'est fort possible. Et puis, quels sont tes projets en cours, là, les projets chauds que tu devrais bientôt sortir ? Tu peux nous faire un petit peu d'exclusivité ? Sur les sorties ?
Je ne suis pas autorisé à en parler.
Ah, zut. Non,
mais ça ne sortira pas d'Internet.
Une démo.
Ah oui.
Mais en fait, comment dire ? Il y aura Atomor 3, de toute façon, qui aura un mode de gameplay assez différent, puisque Eric va continuer à suivre l'évolution des jeux. Atanor 1, c'était du analyse syntactique. Le 2, c'est du point and click classique avec des écrans statiques. Et donc le 3, ça devrait être dans la lignée des LucasArts, etc. Mais entre le 2 et le 3, il va lancer un projet, donc il ne m'en a pas encore parlé. Donc je sais pas que je ne veux pas en parler, c'est que je ne sais même pas de quoi il s'agit. Mais techniquement, on va reprendre le moteur, entre guillemets, moteur. Je fais des guillemets avec mes doigts. Le moteur d'Atanor 2. Donc ce sera le même type de gameplay, mais un univers complètement différent.
D'accord.
Et d'autres projets en cours de toi, non ? Tu dis pas ? Non, c'est...
probablement des projets de démo aussi. Là, pour l'instant, il n'y a rien de particulier. Souvent des trucs de démo, quoi, comme je fais un peu au fil de l'eau tout au long de l'année. Mais c'est vrai que depuis 2017, Atanor m'a vraiment occupé quasiment à 100% de tous mes...
Tu dois être ravi d'avoir retrouvé ton temps libre.
Ouais, je sais pas, c'est bizarre. Non, c'était hyper intéressant. C'est la première fois que je finis un jeu. J'avais plein de protos en Amos basique qui tournaient à droite à gauche, qui traînaient sur des disquettes. Mais c'est vraiment la première fois que je termine un jeu, en tout cas un jeu rétro, quoi.
Chouette. Donc un projet abouti qui a été sorti en physique avec une édition collector hein, de 100 pièces, c'est ça?
Ouais, il a pris une centaine de pièces, peut-être plus s'il y a de la demande, mais ouais, il a pas, Eric a pas un stock de boîtes infini quoi.
J'imagine.
Donc, ouais, on est à peu près sur une centaine de pièces.
Du coup, le jeu a été vendu sur Atari, sur Amiga. Il est encore disponible ou c'est fini?
Je crois que si on lui demande, on doit pouvoir avoir des versions Atari. Ouais. Il peut les faire à la demande en fait.
Oui,
le seul truc qui va lui manquer.
Il faut plier les boîtes et tout. Ouais.
C'est artisanal. Mais c'est ça qui fait le charme, finalement. Est-ce que tu as...
Il y a même de la poterie dans la boîte. Il y a des petites pièces fabriquées en poterie qu'il fabrique lui-même, qu'il envoie chez un potier pour les passer au four et tout.
Alors, on parlait des indices.
Tout fait à la main.
Ouais. Ah ouais. Donc, c'est vraiment le côté personnalisé à fond, quoi. Sympa. En tout cas, est-ce que, Ruth, tu as une dernière question? MMU non plus?
Bah, bon, ouais, bon. Alors, en même temps, j'ai jamais joué sur Auric, donc il faudrait que j'essaye la version.
Ce serait intéressant. Elle est en libre téléchargement, la version Auric?
Je pense qu'on doit pouvoir la trouver, ça ne doit pas être très compliqué.
Ah. Oh, en cherchant, tu dois la trouver. Sinon, tu envoies un mail à Eric, tu lui demandes, il ne saura pas te la refuser.
Ah, c'est en tout cas très, très aimable de sa part de vouloir faire cette recherche. Dans tous les cas, bah, merci de nous avoir un peu expliqué ce parcours, ce jeu. Atanor 2, c'est ça, hein? J'ai pas fait d'erreur cette fois. Et puis, bah justement, on va terminer cette interview avec, en bouclant avec une musique du jeu, mais cette fois la version Atari en YM avec une musique de DMA.
À bientôt.
À tout de suite. Une musique d'intro, donc sur Atari, donc d'autres instruments en YM. L'aventure nous attend, c'était la musique d'intro proposée par DMA, que nous saluons aussi parce qu'on connaît aussi et qu'on a plaisir à entendre régulièrement sur des musiques chiptune. On passe à l'agenda ?
Ouais.
Rappelons que l'agenda est celui de la semaine passée lors des rediffusions le samedi. Qu'est-ce qu'on a ?
Les permanences contre l'obsolescence, au programme vente d'ordinateurs à prix solidaire, bidouillage de matériel informatique en tout genre, discussion circulaire et non obsolescente, reconditionnement d'ordinateurs, initiation à Linux et au logiciel libre, le lundi 22 novembre de 17h à 19h à la Maison de l'économie circulaire 36 cours Général Giraud à Lyon.
Causerie, gestion des mails et burn-out associatif. Comment gérer ses boîtes mails, comment écrire un mail efficace et aussi comment mieux trier ses mails pour se décharger de la charge mentale qui va avec. C'est le mardi 23 novembre à 18h30. Le cause toujours, 8 rue Gaston Ré, 26 000 Valence.
Micromusique, le festival des musiques électroniques. Micromusique, c'est un temps fort autour des musiques électroniques et des arts numériques. Le festival s'adresse aussi bien aux familles, aux curieux qu'aux publics les plus aguerris. Le festival est coordonné par le pôle numérique du Conservatoire Valence-Romans en partenariat avec l'Accordo, le Théâtre de la Ville, le Luxe National, les médiathèques de l'Aglo, le Train Théâtre, les Clévos, les Ades, les
que
Césars,
du monde, quoi.
Tout ça, voilà, les théâtres de la courte échelle. Plusieurs événements, dont un atelier montage audio avec Audacity. Celui-là, ça sera le mardi sur inscription. Et en fait, tout le festival, c'est du mardi 23 au samedi 27 novembre à la médiathèque François Mitterrand, la Tour Maubourg, 26 places, la Tour Maubourg à Valence.
Soirée même pas peur, déglogiser Internet, relocaliser nos usages du web dans la vallée de la Drôme. Avec Internet, email, calendrier, documents partagés, les services en ligne ne sont pas forcément le monopole de GAFAM. Des intervenants nous parlent des alternatives qu'ils ont mis en place localement. Ça se passe le 25 novembre de 18h à 21h au Fab Lab, au 8 Fab Lab, 8 rue Courcomère à Cray.
Conférence débat, qu'est-ce que le logiciel libre ? Conférence généraliste de découverte suivie d'un débat abordant entre autres les principes philosophiques et techniques du logiciel libre, un petit historique de l'origine du logiciel libre, quelques noms de logiciels libres et de services libres respectueux de leurs utilisateurs, quelques projets issus de la philosophie du libre. Ce sera le 26 novembre de 17h30 à 19h30. Au Café Lecture Les Augustes, 5 rue sous les Augustins à Clermont-Ferrand.
AC 2021, l'association Retro Gaming Connexion est heureuse de vous annoncer la 15e convention AC. L'AC est un rassemblement autour de l'informatique ludique des années 70 et 90. Et comme chaque année, la rétro-programmation en tout genre sera mise en valeur avec le concours Speed Coding. Vous pourrez retrouver aussi le tournoi gaming de la convention ainsi que le coin bourse, vente et échange. Sur inscription, les 27 et 28 novembre, salle des fêtes, 77 440
Congis. Du lien et des liens ? Alors nous avons la vidéo Hyper Reality de 2016 qui devrait bien vous dégoûter du métaverse de Zuckerberg.
Ouais, c'est à voir ça.
Wema, un générateur de mèmes par Framasky avec la nouvelle image de Mark Zuckerberg à détourner.
Oui, il a accepté ma pull request.
Une web extension pour Gargamelifier.
Gargamelifier, ouais, c'est pour remplacer un certain Z. Sur Reporter, un article sur les ateliers numériques organisés par la LIDE à Lyon.
C'est Arte, un documentaire Georges Boulle, le génie des maths.
Un tuto pour parler comme dans Alvin et les Chimpunks.
Avec Chipmunks.
Avec VLC.
Chipmunks.
Ouais, c'est parce que j'ai fait un copier-coller et c'est pas la bonne orthographe. Avec VLC. Vas-y, Medbel.
Le podcast Late Night Linux, dans son épisode 149, a testé IQ et en fait l'éloge.
Zapping Zone, l'œuvre numérique et interactive du grand Chris Merker, créée dans les années 1990, a été entièrement restaurée et nous pouvons la découvrir actuellement au centre Pompidou. Elle est constituée de 7 Apple IIGS et d'écrans de télévision. L'exposition présente aussi des documents historiques autour de l'œuvre pour comprendre la pensée artistique et informatique de l'artiste.
Astrologique ? Qui frotte la boule ? Alors, Hot School, ça a bon goût, le chili con graphique.
technophiles, pour les astrologiques, Oracle, les fonds de casserole.
Hacker, le framework, c'est un micro-logiciel bling bling.
Nerd, alors on a décidé de faire ça sur MS Teams. Team suit.
Coder, ne te demande pas pour Jason le glas, car Jason pour toi.
Le glas, okay. Ah. C'est vrai, Jason le glas, et car Jason pour toi.
Ah oui.
Ouais. Sysadmin, Wireshark, Wireshark, Wireshark,
Wireshark. Bon, on va pas continuer
non,
sur cette lancée.
On va pas faire la version 10 heures, hein, parce que...
manque le requin.
10 secondes, ça suffira, je crois.
Wireshark.
Vous allez l'avoir toute la journée en tête, désolé. On s'excuse. Si tu nous regardes, on t'excuse.
Voilà, en tout cas, Maître Belle, je pense qu'il va nous récupérer ça. Ça va être costaud.
Oui, je pense qu'il va y avoir des dossiers après, ouais.
C'est ça. Ouais. En tout cas, merci les amis de nous avoir écoutés jusqu'au bout de cette émission avec notre ami François qui était là pour le jeu Atanor 2. Et puis la semaine prochaine, on se retrouve à un petit sujet aux petits oignons de notre maître belle adoré qui nous aura tout préparé. Hein ? On compte sur toi ?
Oui.
Oui.
Et on se retrouve la semaine prochaine. Et aussi sur notre blog underscore.radio.fm. Bye bye.
Bye bye.
Ciao, ciao.
Salut.